L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, avec Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, nous reviendrons sur la tuerie qui a fait 35 morts dans le centre du Mali. Au Canada, les ambitions écologiques du gouvernement qui veut interdire les plastiques à usage unique dès 2021. En France, le gouvernement qui débloque 70 millions d'euros pour les personnels hospitaliers en grève depuis 3 mois. On verra aussi que cette crise des blouses blanches existe également en Belgique. Grève chaque mardi pour dénoncer là aussi les conditions de travail dans les hôpitaux. Au programme également, nous reviendrons sur la grève des femmes en Suisse pour dénoncer les inégalités et les violences. Voilà pour le programme francophone. Bienvenue à tous. En Belgique, Nathalie De Vic, on a appris avec soulagement mardi la libération de la belgo-nicaraguayenne Amaya Coppens.
La jeune étudiante en médecine âgée de 24 ans avait été arrêtée il y a 9 mois au Nicaragua lors de manifestations contre le régime du président Ortega, accusée d'avoir érigé des barricades et mis le feu à un bâtiment universitaire. Le gouvernement l'avait envoyée en prison pour acte terroriste, tout comme d'ailleurs des centaines d'opposants politiques l'an dernier. Amaya risquait jusqu'à 50 ans de détention, mais son procès, plusieurs fois reporté, n'aura pas lieu puisqu'elle fait partie des quelques dizaines de prisonniers à avoir bénéficié cette semaine d'une loi d'amnistie pour tenter de sortir de la crise politique qui agite le pays.
Hommage cette semaine en France aux sauveteurs marins de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. 7 d'entre eux étaient partis en mer sauver un pêcheur pris dans une violente tempête, mais 3 ne sont pas revenus, noyés en pleine mer quand leur embarcation s'est retournée. Les 4 autres sauveteurs bénévoles ont été secourus. Un hommage national donc leur a été rendu cette semaine, décoré de la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Emmanuel Macron les a salués comme des héros français. Votre personnalité de la semaine, Charlotte Hydrac, elle est atypique. Il s'appelle Lee White, il est d'origine britannique et il est le nouveau ministre des Forêts au Gabon.
Oui, nomination surprise de ce Britannique né à Manchester. Lee White a grandi notamment en Ouganda. Il est naturalisé gabonais depuis 2008 et il dirigeait jusqu'ici l'agence des parcs nationaux du Gabon. Le secteur forestier est un pilier de l'économie gabonaise. Réputé écologiste, intransigeant, Lee White entre au gouvernement alors que le pays est agité par un vaste scandale de trafic de bois précieux qui a coûté sa place à son prédécesseur.
Joël Marchetti, pour une fois, la personnalité que vous avez choisie cette semaine n'est pas suisse.
Eh bien non, puisqu'il s'agit du président de la Commission européenne. Jean-Claude Juncker a écrit au président suisse cette semaine à propos de l'accord cadre entre la Suisse et l'Union européenne. Ce projet d'accord cadre est négocié depuis 4 ans, l'Union européenne le souhaite depuis 10 ans et son but est d'appliquer de façon homogène les multiples accords bilatéraux d'accès pour la Suisse au marché unique. Évidemment, ce n'est pas simple. Les critiques sur cet accord sont nombreuses. Il y a une semaine, le gouvernement suisse a renoncé à signer dans l'immédiat ce projet d'accord, préférant demander d'abord des précisions à Bruxelles. Ce qui inquiète, ce sont les dispositions concernant les salaires, le droit du travail, les subventions publiques et les droits du citoyen.
Benoît Audet, au Canada, vos personnalités de la semaine sont les joueurs d'une équipe de basketball.
Oui, les joueurs des Raptors de Toronto, les nouveaux champions de la NBA, le championnat nord-américain de basketball, ils ont remporté leur premier titre en défaisant les champions de la saison dernière, les Warriors de Golden State. Les exploits des Raptors en séries éliminatoires ont créé un véritable engouement au Canada. Chaque soir de match de la finale, des milliers de Canadiens ont suivi les Raptors sur des écrans géants dans plusieurs villes du pays.
L'actualité africaine cette semaine, Charlotte Hydrac, c'est donc au Mali avec cette nouvelle tuerie dans le centre du pays.
Dans le village d'Ogon de Sobane, c'était dimanche dernier, 35 personnes ont été tuées dans une attaque non revendiquée. Maison incendiée, bétail abattu. En visite sur place, le chef de l'État malien a appelé à un sursaut national.
Les Dogons et les Peuls, c'est deux communautés qui ont toujours vécu en parfaite symbiose. Tous ceux qui aujourd'hui font des thèses les plus douteuses, réviser leur copie et en tout cas ne pas jeter de l'huile sur le feu. Il n'y a aucun conflit interne, je le dis très clairement.
Cette attaque fait suite à celle d'un autre village du centre, Ogossagou. C'était en mars et là, 160 Peuls avaient été tués. Les Peuls et les Dogons, deux communautés qui ont toujours vécu côte à côte au centre du Mali. Mais depuis l'apparition d'un groupe djihadiste dans la région en 2015, les affrontements se multiplient. Ce groupe recrutant principalement chez les Peuls, profitant de l'absence de l'État, de la défaillance de l'armée, de l'effondrement du tourisme, les communautés ont créé des milices d'autodéfense. Bref, la région est sous la coupe de multiples groupes armés. Pour la plateforme Sauvons la région de Mopti, qui rassemble des jeunes de toutes les communautés, il faut...
désarmer tout le monde, sans exception, hein. Désarmer tout le monde. Personne ne doit détenir une arme si ce n'est pas l'armée républicaine, l'armée du Mali.
En mars déjà, le gouvernement avait annoncé le démantèlement des milices d'autodéfense, une mesure difficile à mettre en œuvre.
À son tour, le Canada s'engage dans la lutte contre le plastique. Le projet est prévu pour 2021. Il sera alors interdit d'utiliser des plastiques à usage unique, les emballages et autres bouteilles plastiques. Benoît Audet, les délais sont serrés compte tenu de l'omniprésence du plastique.
Oui, les sacs de plastique, les pailles et les ustensiles, par exemple, sont partout et facilement accessibles. Ce sera donc tout un défi d'arriver à des solutions de remplacement d'ici 2 ans, surtout que le gouvernement Trudeau n'a pas encore présenté de plan concret pour en arriver à éliminer tous les plastiques à usage unique. Les objectifs du Canada ressemblent toutefois à ceux que l'Union européenne s'est fixés il y a quelques mois.
Et ce que l'on sait, Benoît, c'est que le gouvernement veut rendre responsables les entreprises qui produisent et qui utilisent ce genre de plastique.
Le premier ministre Justin Trudeau a ciblé les grandes compagnies comme Coca-Cola. Il veut rendre les grands producteurs de plastique responsables de la gestion de leurs déchets, sans toutefois dire comment il le ferait. Le chef de l'opposition, lui, Andrew Scheer, n'a pas voulu dire s'il poursuivrait dans la même voie s'il est élu aux prochaines élections.
Oui, ce qu'il faut dire aussi, Benoît, c'est que les chiffres sur l'utilisation du plastique donnent un peu le vertige.
Oui, au Canada, seulement 10% du plastique utilisé est recyclé. Et si rien ne change, la valeur du plastique jeté par les Canadiens atteindra 11 milliards de dollars d'ici 2030. La lutte contre le plastique est un enjeu planétaire. Le Canada a d'ailleurs signé une charte en compagnie de 4 autres grandes économies pour tenter de récupérer tout le plastique que l'on produit d'ici 2040.
En Suisse, Joël Marchetti, vendredi était la grève des femmes.
Oui, je vous expliquais la semaine dernière le contexte et les motivations de cette grève, notamment les inégalités salariales entre hommes et femmes. Eh bien, je peux vous dire que c'est une véritable vague violette, couleur de cette mobilisation qui a émergé en Suisse. D'innombrables rassemblements, actions de manifestations et autres mobilisations spontanées ont eu lieu à travers tout le pays, par exemple à Lausanne, comme vous pouvez l'entendre, ou encore à Berne, devant le Palais fédéral, en pleine session parlementaire. La présidente du Conseil national, Marina Carobbio, était elle-même surprise de l'ampleur du mouvement.
Plus intense de ce que je pensais, je pense que ça montre vraiment que le moment est venu d'avoir une égalité entre femmes et hommes et d'abattre les discriminations liées aux genres.
Autre exemple en Valais, parmi les militantes, Nathalie Urviller, une médecin qui s'était battue pour la protection des collaboratrices enceintes dans un hôpital. Elle avait gagné la bataille juridique qui s'en était suivie, puis avait reçu le prix Courage 2018.
Oui, tout est lié. On a beaucoup de médecins, des infirmières, ici, personnel de l'hôpital, qui ont congé parce qu'on n'a pas le droit de faire la grève en médecine. Et puis c'est lié, si on n'a pas les moyens politiques, on n'aura pas les droits dans la profession. C'est possible qu'on se défend et puis qu'on peut gagner.
Après la première grève des femmes de 1991, la mobilisation de ce 14 juin 2019 pourrait bien marquer durablement les esprits.
En France, le gouvernement vient de débloquer 70 millions d'euros pour les personnels soignants dans les hôpitaux après 3 mois de grève dans les services d'urgence. Depuis le 18 mars, le mouvement n'a cessé de prendre de l'ampleur dans les hôpitaux. Une centaine de services d'urgence sont touchés par cette grève. Les personnels sont à bout de nerfs, épuisés par des horaires trop lourds, parfois jusqu'à 18 heures de travail d'affilée. Il faut dire que les entrées en hôpital sont plus nombreuses qu'il y a 10 ans. Or, dans le même temps, les effectifs ont baissé. Les grévistes dénoncent aussi des méthodes managériales inadaptées, disent-ils, aux besoins dans les hôpitaux. La ministre Agnès Buzyn a donc débloqué une enveloppe. Elle veut donner les moyens supplémentaires au personnel dès cet été.
J'ai dégagé une enveloppe budgétaire pour cet été, de façon à ce que les établissements qui vont sentir des tensions puissent recruter du personnel. Cette enveloppe de 15 millions d'euros vise justement à ce qu'on pallie aux vacances notamment et aux difficultés de fonctionnement qu'ont certains services l'été. Et la semaine prochaine, nous discuterons entre nous, lors de cette réunion de préparation de l'été, de comment elle va se mettre en œuvre.
Voilà, donc 15 millions pour le recrutement d'effectifs. À cela, il faut ajouter 55 millions qui vont financer des primes pour les infirmiers et les aides-soignants. On attend de voir si cela suffira à calmer les inquiétudes de tous les personnels hospitaliers. La crise donc dans les hôpitaux français, on vient de l'entendre, mais aussi en Belgique, Nathalie De Vic, les mardis blouses blanches ont commencé.
Infirmiers, aides-soignants, médecins, c'est chez nous aussi tout le personnel de l'ensemble des hôpitaux, publics comme privés, qui est à bout et qui se mobilise pour le faire savoir en organisant diverses actions désormais chaque mardi dans les hôpitaux, mais également les maisons de repos, tous les secteurs de la santé qui souffrent d'un manque criant et récurrent de personnel.
Depuis des années, le secteur des hôpitaux a été sous-financé. Donc ça veut dire que ça fait moins de bras dans tous les secteurs, que ce soit le secteur infirmier, mais le secteur des laboratoires, des radios, des cuisines, partout. Et le personnel est en souffrance.
Une souffrance pas seulement ressentie parmi les plus anciens qui ont vu se détériorer au fil des ans leurs conditions de travail, mais aussi par les jeunes recrues qui n'imaginaient pas des cadences aussi infernales.
Il faut tirer la sonnette d'alarme, il faut dire qu'on n'en peut plus. Déjà, moi, au bout d'un an de travail dans un service, on voit qu'il y a un gros problème, qu'il y a une surcharge de travail, trop peu d'infirmières, et qu'il faut qu'on fasse quelque chose, parce que ce n'est pas tenable.
Avec la crainte que ce soit finalement le patient qui en pâtisse, d'autant que la situation risque encore de s'aggraver cette année, puisque les études d'infirmiers se voient allongées de 3 à 4 ans. Une pénurie donc de diplômés ponctuels qui viendra s'ajouter à celle structurelle dans une profession de moins en moins attractive. Les blouses blanches annoncent vouloir poursuivre leur mobilisation chaque mardi jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Et ici, on sait que ça peut prendre du temps.
Voilà donc pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous francophone, ce sera la semaine prochaine, au même endroit et à la même heure.